Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'art d'être une maman sur tous les continents. Tour du monde des rites maternels qui résistent à la mondialisation. Certaines habillent leur bébé de jaune comme un petit soleil pour la sortie de la maternité au Chili. D'autres en Amérique du Nord annoncent le sexe du bébé lors d'une fête pendant leur grossesse avec leurs copines qui offrent des cadeaux. En France, les cadeaux avant la naissance peuvent au contraire porter malheur. En Finlande, on pratique la sieste de plein air pour le bébé, emmitouflé, même en hiver. Et dans votre pays, que font les mamans avec leurs enfants ? Avec quelle tradition vous accompagnez vos enfants pour les faire grandir ? Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Les papas aussi, bien sûr, ont la parole. Personne n'est exclu. Je vous présente nos invités. Ania Pamula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour un quotidien polonais et vous êtes aussi une maman. Votre fils, Joseph
a quel âge ? 6 ans et demi.
6 ans et demi. Et vous publiez « Maman du monde » aux éditions First, que vous avez publié avec Dorothée Saada.
C'est ça.
Et vous avez alors vraiment rencontré combien de mamans ?
Alors, on a commencé d'interviewer les mamans il y a à peu près 4 ans. Et parallèlement avec le livre, on a une chronique dans le magazine Parents. Et depuis 4 ans, on a rencontré alors les mamans de 90 pays. Alors, ce sont toujours les mamans qui habitent en France.
Ouais.
C'est ça, la richesse de la France pour moi. Moi aussi, je suis polonaise, je suis en France depuis 8 ans. Et je trouve ça incroyable, toutes ces mamans qu'on peut rencontrer avec toutes leurs histoires.
Et quand on est maman, pas dans son pays, c'est le moment où on s'étonne, hein, finalement, de voir qu'on n'a pas tout à fait les mêmes traditions. Mariama Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biculturelle, hein, vous êtes psychologue, maman franco-guinéenne.
Tout à fait.
De 3 enfants.
Oui.
Quel âge ont-ils ?
Alors, ils ont 9, 7 et bientôt 5.
Voilà. Alors, vous allez aussi nous faire part de vos étonnements. Et en fin d'émission, on parlera des enfants sans identité non déclarés à l'état civil. Parce que des parlementaires français font des propositions concrètes pour aider les pays concernés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Allez, vous nous téléphonez. Retour aux traditions pour faire grandir les enfants. Les mamans, vous avez la parole au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages. Là, ce sont des papas qui s'expriment, ils ont le droit. Ayouba est à Abomey Calavi au Bénin. Et il nous dit « Chez nous, au Bénin, dans certaines localités reculées du pays, on fait la cérémonie de sortie de nouvelle lune pour le bébé. Les tantes paternelles de l'enfant font des rituels ancestraux afin d'initier le bébé, non seulement à la famille, mais aussi au nouveau monde dans lequel il est appelé à vivre. Maxwell à Abidjan nous dit que dans la plupart des pays ouest-africains, au Togo, au Ghana par exemple, quand il arrive qu'un bébé porte son excrément à la bouche, la maman aussi doit prendre un petit bout de l'excrément du bébé et le porter à sa bouche. Ça, je ne connaissais pas. Vous aviez entendu parler de ça ?
Non, non, non.
Ça arrive, hein. C'est vrai, quand le bébé, si le bébé ne porte pas de couche-culotte, on en parlera avec vous d'ailleurs, hein, parce que la propreté du bébé, c'est quelque chose qui peut omnubiler pas mal la maman. Et ceux qui n'ont pas de couche-culotte, évidemment, il peut arriver que le bébé soit en contact avec ses propres excréments. Serge est à Kinshasa, il nous dit en RDC, chez nous, quand un bébé mange les excréments de la chèvre, on va siffler dans sa bouche pour éviter que l'enfant devienne sourd-muet. Voilà. Les mamans, vous pouvez bien sûr nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Finalement, toutes ces croyances donnent aussi de la poésie et du sens à l'éducation, à l'amour qu'on peut donner à ses propres enfants.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Mariama Diallo, Ania Pamula, vous êtes bien avec nous dans le studio. On accueille des auditrices. On accueille d'ailleurs une mère et sa fille. Chantal, vous êtes à Abidjan. Bonjour Chantal.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes maman et votre fille vient d'avoir un bébé. C'est Marianne, bonjour.
Marianne est juste à côté.
Alors, est-ce
bonjour.
Qu'on... Oui, bonjour Marianne. Vous êtes bien avec nous aussi au téléphone ?
Oui, oui.
D'accord, vous êtes jeune maman d'un bébé de quel âge ?
2 mois.
D'accord, c'est un garçon ?
Oui.
Super, formidable. Et comment il va ?
Il va très bien.
Bon, Alors, qu'est-ce que votre maman vous a transmis comme alors conseil, mais aussi tradition bien de chez vous?
Beaucoup. Le fait de s'occuper d'un enfant, prendre soin de lui, comme le laver, le masser, et puis lui donner à l'été. En tout cas, vraiment beaucoup de choses.
Oui. Sur le lavage du bébé, il y a des règles précises, des traditions précises? Parce que alors là, moi j'ai découvert avec le livre Maman du Monde, mais il y a mille et une façons de laver son bébé. Hein. Certes, il y a toujours de l'eau et du savon, a priori, mais alors, ça peut vraiment être très différent. Comment ça se passe pour vous, Marianne?
Vu qu'il est très fragile, c'est un bébé, il est très fragile. Donc, maman le met sur son petit, ses pieds, le lave. Ou soit, on le met dans le berceau avec plusieurs pains. Voilà, pour ne pas qu'il sente vraiment le berceau. Voilà, donc on met plusieurs pagnes pour pouvoir le laver. Voilà.
D'accord, dans le berceau, alors du coup, les pagnes sont tout mouillées après?
Oui.
Hein,
oui.
C'est ça. Donc vous avez une petite éponge, un tissu mouillé avec imbibé avec de l'eau, du savon?
Oui.
C'est ça?
Et on le lave avec de l'eau tiède.
Avec de l'eau tiède, d'accord. Et après, pour le rincer, alors comment vous faites, Marianne?
Pour le rincer?
Ouais, pour enlever le savon.
En fait, étape par étape.
D'accord, étape par étape. Après, on le passe sous le robinet, c'est ça?
Non. On prend le gant du bébé.
Oui.
Avec de l'eau dans son propre seau.
D'accord.
Comme il l'a dit, avec de l'eau tiède.
D'accord.
On imbibe bien le gant avec l'eau.
D'accord.
Et on le met sur le bébé. On met de sorte à ce que l'eau ne puisse pas entrer dans ses narines, dans sa bouche et autres.
D'accord. Voilà. Votre maman, Marianne, est avec vous, là, près de vous, Chantal?
Oui.
D'accord. Vous pouvez nous la passer?
D'accord.
Allô, Emmanuel?
Oui, bonjour, Chantal. Donc, vous êtes une heureuse grand-mère?
Oui, une jeune grand-mère, d'ailleurs.
Oui, c'est votre premier petit-fils?
Oui, le premier.
Alors, quelles sont les traditions, au-delà de la tradition familiale, hein, la tradition culturelle de chez vous, que vous transmettez à votre fille là, au moment de la naissance, des soins au bébé?
Bon, dans la tradition, il y a beaucoup de pratiques que moi, j'ai jugées un peu néfastes, que je n'applique pas d'ailleurs. Mais il y a des éléments quand même qui sont bons que nous appliquons.
Alors, ce que vous avez abandonné, c'est quoi, par exemple?
Ce que j'ai abandonné, c'est le fait que dans notre tradition, quand un enfant naît, on met dans son eau de bain, dans son eau à boire, soit des eaux de gorille.
Ah oui, c'est pas évident à se procurer en plus. À mon avis, il doit y avoir beaucoup de choses plus ou moins authentiques. Hein.
Oui, même s'il y en a, mais je pense que c'est pas très, très, très
pratique. Oui,
c'est très hygiénique.
C'est pas très hygiénique, voilà. En effet. Donc ça, vous avez abandonné.
Oui, l'esprit, c'était qu'on donne de la vigueur à l'enfant, que l'enfant soit vigoureux.
Et oui, pour les garçons surtout.
Voilà. Mmh. Et ça, bon, moi, je pense qu'il y a des risques au niveau sanitaire à faire ça.
Alors, vous massez le bébé avec du beurre de karité. Ça, je crois vraiment que c'est un produit qui est, vous me confirmez, Mariama Diallo, hein, utilisé sur tout le continent, parce que c'est un produit qui est disponible partout et qui est très, très hydratant pour la peau du bébé.
Oui, et même par la diaspora, puisque on est plusieurs à se faire ramener, ou bien quand on part en vacances voir la famille, à revenir avec nos 2 kilos de karité pour l'hiver.
Ouais. Alors, évidemment, c'est pas un aspect médical. Hein. Il se passe quelque chose quand on masse son bébé avec du beurre de karité, en réalité.
Oui, alors le massage. Alors comme je suis psy, je vais le massage. Donc il y a déjà le contact, le toucher, et puis le fait que ce soit avec du beurre, ça adoucit le contact. Et ensuite, donc quand on voit les mamans en Afrique, donc je sais pas si la maman de
Chantal,
va confirmer, mais il y a un massage un peu vigoureux qui permet de détendre. Le bébé, et du coup ça aide par rapport à sa position, vous voyez, où il est
un peu recroquevillé quand il vient de naître
sur lui-même, et donc il y a vraiment
un petit stretching quoi, en gros. Vous avez montré ça à votre fille Marianne, Chantal, comment détendre un peu les tissus, les membres, tout ça du bébé?
Oui, effectivement,
un massage un peu vigoureux, donc
pas très vigoureux. un massage qui permet à l'enfant d'être bien détendu et après le bain, de bien dormir.
Oui.
Voilà. Donc, c'est avec du beurre de karité, comme on a dit. Et on le fait vraiment, c'est un massage assez doux quand même que moi je pratique. Sinon, au village, le massage est vraiment douloureux.
Oui.
Quand on le fait, toi-même, tu es là, tu as peur parce que tu penses qu'il y a un des membres de ton enfant qui va quitter. Voilà.
Oui, il ne s'agit pas de démembrer le bébé, bien sûr. Il y a une tradition aussi, je crois que on lance en l'air l'enfant plusieurs fois, ça, vous pratiquez ça pour qu'il puisse vaincre sa peur, c'est ça?
Effectivement, c'est-à-dire qu'on lance l'enfant en l'air, on le laisse revenir, on l'attrape.
Ouais.
Et c'est comme vous l'avez dit là, c'est pour qu'il puisse vaincre la peur.
Ouais.
Voilà, et ça on le fait, mais moi je ne conseille pas ça trop pour ceux qui ne sont pas très 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 savent pas le faire, parce que ça présente quand même des risques.
Ouais.
Quand on lance l'enfant et qu'on ne peut pas l'attraper.
C'est sûr.
C'est
sûr, ça c'est clair. En tout cas, quand le bébé est un peu plus âgé, qu'il commence à sourire et à comprendre les sensations, c'est quelque chose qui le fait beaucoup rire, hein, quand on le lance en l'air et qu'on le rattrape, évidemment, en toute sécurité.
Oui, tout à fait. Après, ça devient un jeu, quoi, à cet âge-là. Je voudrais juste revenir sur peut-être le massage, les choses comme ça. Je pense que il y a une petite perte au niveau de la transmission, puisque au fond, il y a des ostéopathes. Parfois, quand ils font des manipulations, c'est pareil, on est très surpris. Alors qu'ils ne font que remettre en place ou débloquer quelque chose qui est bloqué à un moment donné. Et du coup, je pense que sur ces massages, hein, moi, j'ai exactement le même point de vue et la même sensation quand je vois un massage trop vigoureux. Mais je pense que là, il y a un déficit de transmission de nos aînés sur comment on fait ces massages, oui. Quelle est leur fonction. Voilà, du coup, comme on ne comprend pas, eh bien, on voit que, entre guillemets, la violence du geste, alors que je pense qu'il y a sans doute un soin derrière, mais dont on n'a pas les clés.
Oui, et c'est ça toute la difficulté aussi. Hein. Merci à vous Chantal de nous avoir appelé et bravo aussi à votre fille, heureuse maman d'un petit garçon de 2 mois. Très bonne journée à toutes les deux, Chantal et Marianne. Anya Pamoula, comment est née alors finalement l'idée de ce tour du monde maternel? Il y avait cette chronique pour le magazine Parents. C'est-à-dire que vous avez demandé à plein de mamans de parler de leur étonnement en France, elles qui étaient des mamans venues d'ailleurs.
Oui, mais toutes ces questions, ça vient de mon étonnement à moi.
De maman polonaise.
De maman polonaise en France, qui se retrouve en France. Et mon fils, il est né. Et j'étais vraiment, j'avoue que j'étais très très perdue. Parce que même si on n'est pas loin, parce qu'il n'y a qu'un seul pays qui nous sépare, tout était différent. Ça veut dire ma grand-mère avec qui j'étais au téléphone tous les jours, ou plusieurs fois par jour quand Joséphine est née, elle me disait tout le contraire de mon pédiatre en France, mais vraiment tout le contraire. Par exemple, j'ai entendu, je sais que ça se fait souvent pas, mais quand même la pédiatre elle m'a dit il faut le faire pleurer, parce que vous savez il a déjà 3 mois, il faut faire ses nuits. Et moi, pour moi, faire ses nuits, déjà, c'est une expression.
C'est-à-dire le laisser pleurer, vous voulez dire.
Oui, le laisser pleurer. Et déjà, faire ses nuits, pour moi, et même au niveau de langage, c'est bizarre. C'est comme faire les devoirs. En polonais, on n'a pas ça, c'est juste dormir. Et ma grand-mère m'a dit, tu vas voir, s'il dort à 2 ans...
T'auras de la chance.
T'auras bien. Mais sinon, il faut se lever. Hein. Moi, je me suis levée pour toi. Voilà, c'est comme ça. On parle aussi de la transmission.
Là, vous parlez de votre maman ou de...
Non, ça, c'est ma grand-mère.
Votre grand-mère qui se levait pour
elle
vous.
Était grand-mère très jeune, à 42 ans. Du coup, c'était... Oui,
elle aidait
ma
beaucoup.
Maman. Oui.
Quand vous êtes arrivée dans une pharmacie en France pour demander de l'alcool pour bébé, on vous a regardé de travers. On s'est dit tous, oh là là, ces gens slaves qui consomment beaucoup d'alcool.
C'est vrai que voilà, ça, c'était une des conseils de ma grand-mère. Quand Joseph, il a une... Je ne me rappelle plus, c'est une forte fièvre, un refroidissement plutôt. Elle m'a dit, écoute, va vite et achète l'alcool pur et tu lui frottes. Alors avant, on met du gras sur les pieds ou ici sur la poitrine. Et après, on met alors de l'alcool fort. Effectivement, ça ne brûle pas, hein, parce que si on met le gras avant...
C'est censé servir à
alors,
quoi?
Ça ne se fait pas dans toutes les maisons. Ouais. Chez moi, ça se faisait. Et ça réchauffe et je continue à le faire. Hein.
Donc ça réchauffe le corps?
Ça réchauffe, ouais. C'est exactement le même, comme les huiles essentielles, en gros, qui réchauffent et qui aident un peu à respirer. Voilà. Mais c'est vrai que la pharmacienne que je lui ai demandé, madame, en plus avec mon français un peu cassé au début, quand je lui ai demandé est-ce qu'elle a peut-être l'alcool pour le bébé, elle était bien étonnée.
Ouais. Alors, c'est vrai que vous parliez du sommeil. Sur le sommeil, il y a vraiment mille et une visions. Du sommeil de l'enfant, hein, Mariama Diallo.
Oui, alors moi j'ai un peu vécu la même chose que Ania, mais c'est vrai que j'ai fait le choix, mais parce que j'ai été aussi bien accompagnée pour la venue de mon aîné, de aussi suivre mon instinct et en échangeant aussi avec des copines blanches, hein, je dis blanches parce que pour faire la différence, qui me disaient mais Mariama t'es africaine, un bébé c'est à l'instinct, voilà. Et donc moi j'ai dormi avec mes enfants, j'ai allaité très tard, mais comme je pouvais pas me lever, donc j'ai dormi avec mes enfants dans le lit et ce qu'on remarque en fait c'est que c'est formidable parce qu'il y a une vraie synchronisation des corps. Où vous sentez, en fait, vous bougez sans vous réveiller, le bébé s'ajuste, et en fait, c'est du libre-service, et on récupère quand même.
Ça se fait beaucoup, ça ne se fait pas qu'en Afrique, hein, ça se fait dans de très nombreuses cultures, en Asie, ça se fait en Allemagne, oui. De dormir avec son bébé, ça se fait dans certains milieux aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, on est... Alors oui, il y a une petite mode en France, mais on est un peu plus réfractaire quand même.
Surtout que, voilà, moi, mon aîné qui a 9 ans, comme je disais, on nous disait « Ah non, il ne faut pas dormir avec le bébé ». Donc à la maternité, je me souviens, je me disputais en fait avec la sage-femme parce qu'elle venait, elle sortait le bébé de mon lit. Parce que dès la maternité, je l'avais dans le lit. Et en fait, dès que je me levais, moi, je le remettais dans mon lit. Et elle me disait, mais vous allez écraser votre bébé.
Et donc, on a peur de la mort subite du nourrisson, voilà. On a peur de l'étouffer, etc.
Voilà. Ouais.
Et il y a une maman japonaise que vous avez interviewée, Ania Pamuka, Anako, qui vit en France, hein, qui dit, la maman d'un côté, le papa de l'autre, le bébé dort au milieu comme un ruisseau qui joint deux rives. C'est rude.
Oui, c'est très, très beau. Mais c'est vrai que ce qu'elle disait, qu'elle a dormi avec ses parents presque jusqu'au moment où elle est partie
jusqu'à
en France
26 ans.
À l'âge de 26 ans.
Parce qu'ils n'avaient qu'une seule pièce.
Il faut imaginer vraiment aussi un autre contexte. Ça veut dire une seule pièce. Ils dorment tous sur les tatamis. Ça veut dire que c'est des matelas un à côté de l'autre. C'est pas vraiment comme nous si on dormait tous dans le même lit. Mmh.
Comment rendre son enfant, en France, en français, on dit rendre l'enfant propre, c'est-à-dire qu'il n'ait plus besoin de couches culottes. Je précise d'ailleurs qu'en France, c'est une condition pour son entrée à l'école maternelle. Hein. Si l'enfant fait pipi sur lui et autre chose, c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas assez d'auxiliaires pour aider l'enseignante, etc. On a l'impression, vu de loin, que sur le continent africain, finalement, c'est jamais tellement un problème.
Alors, c'est vrai, mais je dirais, moi, qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, traditionnellement, voilà, l'enfant, en fait, africain, il est très libre. Et l'enfant reste nu assez longtemps quand on est au village, enfin, dans la tradition.
Quand on est au village.
Voilà, donc du coup... Les choses se passent, on va dire, tranquillement, il va à son rythme. Mais moi, ce que j'ai constaté récemment, c'est qu'en ville, par contre, en fait, il y a, donc dans les milieux populaires, on habitue très tôt l'enfant à être sur le pot. Donc moi, j'ai vu, par exemple, ma sœur, quand son enfant se réveille, qui ne sait pas encore marcher, elle a un tout petit pot, elle l'assoit sur le pot, elle l'allaite. Et donc, du coup, il y a quand même un conditionnement qui s'opère où, finalement, l'enfant s'habitue en se réveillant à faire sur le pot.
C'est comme les mamans en Arménie. C'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a aussi, la maman arménienne m'a raconté, il y a un tout petit pot qu'elle utilise dès un an ou même un tout petit peu avant. Mais j'ai l'impression, est-ce que tu ne penses pas que c'est lié en Afrique aussi avec le portage? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que le portage, en fait, qu'on porte sur le dos, c'est un portage actif. Et du coup, la motricité de bébé se développe beaucoup mieux. Et l'enfant, je ne sais pas si ça peut être lié après avec...
Ce sont des enfants plus toniques.
Plus toniques,
musculairement.
Est-ce que ça peut être lié que,
Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un enfant d'un milieu populaire africain, il est libre.
Ouais. Et voilà. Puis, il faut quand même préciser aussi que c'est que les couches culottes, ça coûte une fortune.
et qu'elles sont de mauvaise qualité.
Voilà, et sinon, bah, y a les pagnes, hein, bien sûr, mais enfin, ça demande beaucoup de maintenance, de lavage, etc. Et c'est compliqué. Et chez vous, dites-nous avec quelle tradition vous accompagnez vos enfants pour les faire grandir, les petites recettes de grand-mère, tout ce qui tient à votre culture, dans votre pays, dans votre groupe ethnique. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
Maman, je ne chanterai pas mon enfance difficile, car tu m'as toujours appris qu'il y avait bien plus faible, plus malheureux que soi. Cette vérité dans le timbre de ta voix a fait qu'aujourd'hui encore je n'ai rien oublié, car depuis tout petit tu n'as cessé de m'aimer. Cette chanson est pour toi qui s'est sacrifié pour moi. J'ai la chair de poule quand j'entends parler de Paul Cézanne. J'ai l'odeur de la fumée et la chaleur des flammes qui me remplit la tête. Purification ou tempête, maman, je ne me plains pas, tu sais que ça me fait sourire. Les rivières et la Gée, c'est trop de bons souvenirs. Les kilomètres à pied, ça en use des paires de souliers. Maman, wow, maman, ma reine et mon roi, à la fois, aïe, aïe, oh, maman, wow, wow, maman, personne d'autre que toi, aïe, aïe, hey, oh,
Paul Jacques, maman, vous écoutez RFI, nous sommes bien tous ensemble, 7 milliards de voisins, et on échange des conseils sur le soin au bébé, toutes les traditions autour du monde, être maman d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent malgré la mondialisation, malgré les progrès de la médecine, bien évidemment. En fait, les petites habitudes au quotidien, on voit bien, sont très différentes. Vous nous en parliez, Anya Pamoula, vous êtes l'auteur de Maman du Monde, donc vous avez rencontré plus de 90 mamans du monde entier qui vivent en France et qui décrivent leur étonnement. Ils disent, ah ben, ça se passe pas du tout comme ça dans mon pays. Mariama Diallo, vous êtes une psychologue et maman franco-guinéenne. Anya, d'ailleurs, vous êtes vous aussi maman. Et on en discute. Vous pouvez bien sûr nous appeler. Dites-nous quelles traditions accompagnent vos enfants, comment vous les élevez au quotidien, vous les faites grandir de la naissance aux premières années de la vie. Appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Un auditeur iranien nous a posté ce message. Il y a longtemps, les mamans iraniennes dans certains villages donnaient à manger à leur bébé un intestin de loup séché pour avoir un enfant fort et courageux. Ça, c'est beaucoup autour du garçon. Hein. Il y a beaucoup de traditions encore, de rites, hein, Mariama Diallo, sur le garçon pour qu'il soit véritablement un garçon.
Oui, alors moi, ce dont je peux témoigner, c'est quand, déjà tout petit, hein, finalement, quand il pleure, mais ça, c'est des choses qu'on va retrouver, où on va dire, ah ben, t'es un garçon, faut pas pleurer, faut que tu sois fort. Et en fait, plus les petits garçons grandissent,
c'est bien dommage.
Et plus on leur ils sont confrontés à ces injonctions là, même si quand même sur les trois premières années traditionnellement l'enfant est dans les girons, donc dans les pagnes de sa mère comme on dit souvent.
C'est à partir de 6 ans après qu'il passe vers le papa.
C'est à partir de 3 ans et entre 3 et 6 ans, ça se fait progressivement.
Ouais. Là, il faut apprendre la bravoure.
Voilà, donc là, il faut apprendre à devenir un petit garçon avec les codes.
Mais j'ai l'impression que c'est en Pologne, c'est à peu près pareil. J'ai l'impression en France quand même aussi. Et le seul pays où j'ai vu, c'est plutôt égalitaire, c'est le pays scandinave. Où vraiment, on donne les clés, ça veut dire les papas donnent les clés à leurs filles pour, par exemple, la maman islandaise, elle racontait comment son papa lui donne les clés d'être forte, et pas forcément de ne pas avoir peur, parce qu'on peut avoir peur, mais d'assumer sa force.
Oui, c'est ça, on a transposé ces codes également donc, aux petites filles. Un auditeur aussi nous a posté un témoignage sur notre WhatsApp, 33 7 64 45 51
41. Bonjour, je suis Jim Santelme de la République Centrafricaine. Le rituel maternel, par exemple, quand un bébé est né, on verse de l'eau sur le toit de la maison pour lui souhaiter la bienvenue.
Il y a beaucoup de choses hein, pour souhaiter la bienvenue de l'enfant. Là, Antelme nous parle de l'eau, mais c'est vrai que l'eau, ça a une signification symbolique hein, pour l'arrivée de l'enfant dans de nombreux pays, non ?
Bah moi, c'est ce que j'adore, ça veut dire toutes ces fêtes autour de la sortie de l'hôpital, autour de la grossesse. Il y a vraiment toutes ces familles qui se réunissent. Alors, parmi plein de pays, c'est différent. Par exemple, en Arménie, on va fêter la première dent. En Iran, on a parlé de papa iranien, on va fêter le premier jour de marche, la fête Nenoun. Ça, j'ai adoré, c'est le premier jour où un bébé marche. Il y a tous les cousins qui vont arriver et qui vont applaudir, qui vont le motiver pour qu'il marche. Je trouve ça très symbolique, cette entrée dans le monde. T'étais bienvenu parmi nous. J'aime bien ce côté fête et de vraiment d'être, de accueillir l'enfant.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille une maman, Aminata. Bonjour Aminata.
Bonjour.
Aminata, vous vivez en France, vous êtes d'origine malienne ?
C'est ça.
Ouais. On vous écoute Aminata.
Alors, du coup, je voulais vous partager mon témoignage par rapport à ma maman. Avec qui j'ai vécu longtemps.
Oui. Vous êtes d'une famille soninké, hein, je crois, parce que c'est important
c'est ça,
aussi
exactement.
D'un groupe ethnique à l'autre, il y a quand même des choses qui changent.
Oui, exactement. Et la particularité, effectivement, autour de la maternité chez nous, c'est que quand une fille a un enfant, elle retourne en général passer une période qui est de 40 jours normalement.
Oui.
Chez sa maman pour apprendre tous les rituels liés à la maternité et puis pour se reposer aussi. Et voilà, c'est une période un peu particulière où le lien mère-fille
Vous avez pu le faire, vous aussi, retourner chez votre maman pendant plusieurs jours ?
Oui, je l'ai fait. Je suis pas restée 40 jours, mais je crois que c'est...
Mais ça veut dire le papa est laissé à l'extérieur hein, dans ces cas-là de cette transmission ?
Exactement. Il vient en visite.
Voilà, il dort tranquillement pendant la nuit.
Exactement.
C'est un bon plan, d'accord. Merci beaucoup Aminata de nous avoir appelé. Ça se pratique dans pas mal de cultures, ça, hein, le
presque
fait de...
partout.
Ouais. Ouais. De retourner habiter chez chez ses
non,
parents.
Moi je pensais
maman qui vient, la grand-mère.
Oui, cette période de 40 jours, ça, on a retrouvé avec Dorothée, alors la co-auteure de Maman du Monde. On a vraiment retrouvé ça presque partout. En Amérique latine, c'est la quarantaine. En Asie, c'est aussi les 40 jours pendant lesquels on se lave pas, on boit du chaud, on fait attention, on se repose. Et d'ailleurs, même en France, ça existait. Hein. Avant la guerre, on faisait les, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'était aussi le 40 jours pendant lesquels il fallait se reposer et pas tout de suite revenir au boulot, passer l'aspirateur, faire les courses.
Pour celles qui n'étaient pas obligées d'aller au champ, parce que là aussi, ça dépend aussi des milieux.
Alors, je pense que justement, il y avait une organisation sociale qui faisait que le relais était pris. Et effectivement, c'est pas forcément la maman qui vient d'accoucher qui va, mais ça peut être sa maman à elle qui vient, puisque moi je vois, j'ai pas mal de parents qui vivent au Sénégal, enfin à Dakar par exemple, et en fait quand on a une sœur ou une cousine qui accouche, quelques temps avant, en général on fait venir la maman, et en fait tout l'enjeu, il y a la transmission, mais il y a aussi prendre soin aussi de la maman, ça veut dire que c'est une période pendant laquelle la maman doit se reposer. Et ça, c'est très important.
Alors, c'est quelque chose qui se pratique aussi dans pas mal de familles françaises, hein, surtout si la grand-mère vit loin de sa fille, elle va venir la rejoindre pour l'aider quelques jours. C'est quand même assez classique. On accueille aussi Mariama qui nous appelle du Niger au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Mariama.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue, Mariama, chez 7 milliards de voisins. Alors vous êtes une maman Ottawa, à l'est de Niamey. Vous avez deux enfants.
Oui.
Et vous vouliez nous parler d'une tradition qu'on retrouve dans pas mal de pays d'ailleurs. On vous écoute, Mariama.
Oui, la tradition des 7 jours après la naissance d'un enfant. Oui. Donc quand on accouche, après être sorti de la maternité, le nom du bébé est gardé secret jusqu'au 7e jour, donc le jour du baptême. Donc là, c'est le marabout qui divulgue le nom à tout le monde.
C'est ça. Mais ce sont les parents qui ont choisi le nom, qui ont choisi le prénom.
Oui, les parents choisissent le prénom, mais il est gardé secret. Donc c'est seuls les deux parents qui connaissent le nom.
Oui. Mariama Diallo, vous connaissez aussi ce rituel-là.
Oui. Bonjour, Tokora.
Bonjour.
Oui, donc effectivement, bon, chez nous aussi. Donc moi, je suis Peul de Guinée, et en fait, quand l'enfant naît, la tradition veut que le papa lui murmure son prénom à l'oreille, au cas où il serait amené à décéder en fait avant son jour de baptême, pour que il puisse partir avec son prénom. Mais effectivement, c'est le jour du baptême, donc le 7 ou 8e jour, où bah, quand on égorge en fait l'animal, on dit le nom, et ensuite le nom est dit à la communauté par la personne qui est en charge de donner le nom, et du coup c'est là où la communauté l'accueille.
C'est donc, ça veut dire c'est le moment finalement 7 jours après où le bébé prend une existence finalement.
Alors moi je trouve que c'est une existence en fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a l'accouchement qui est l'affaire des femmes, où c'est pas une maman seule qui met au monde un enfant, c'est-à-dire qu'elle est entourée des tantes, grand-mères, etc. Donc il y a cette première étape, la rencontre avec le papa. Et puis, la rencontre avec la communauté. Et je trouve que c'est très beau parce qu'il y a vraiment un cheminement de la conception, la grossesse, l'accouchement, etc.
Alors, vous parliez de l'accouchement, justement, Mariama Diallo. C'est intéressant parce que vous racontez que on vous a dit « Tu feras comme les autres, tu ne crieras pas ». C'est ce que votre maman vous a dit. Hein.
Ah oui, c'était ma hantise.
Et ça, c'est l'histoire qui m'a très aimée. Et votre mari aussi vous a dit « Surtout, ne hurle pas ».
Voilà, c'est ça, la maternité. Donc, voilà, j'avais très peur. Alors, paradoxalement, j'ai quand même fait le choix de pas prendre la péridurale d'entrée de jeu. Donc...
Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'en France, elle est, contrairement à d'autres pays où il faut payer beaucoup plus cher quand on veut une péridurale, c'est pas le cas en France.
Alors en fait, c'est que j'ai une amie qui est médecin algérienne, donc qui est plus âgée que moi, j'ai l'âge de ses enfants, et quand je lui disais « Ah moi, je rêve d'avoir des enfants, mais j'ai trop peur de l'accouchement », elle me disait « Mais comment tu portes ton enfant pendant 9 mois et en fait les derniers 100 mètres, tu voudrais ne plus être là ?» Elle me dit, mais en fait, chaque douleur, c'est un pas que l'enfant fait pour venir te rejoindre à l'extérieur.
Ah, c'est superbe, ça.
Et ça m'a tellement touchée que je me suis dit, bon, je vais essayer. Alors après, je pense que...
Bon, après, il y a le principe de réalité, hein,
voilà.
Parfois.
Tout à fait. Et je pense que ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai été accompagnée pendant la grossesse donc, de mon aîné par une maternité qui était pro. Accouchement physiologique, et du coup, voilà, c'est ce qui m'a encouragée.
En tout cas, vous expliquez bien que chez les Peuls, la réserve est une
valeur,
voilà, une valeur importante, hein, et donc on n'exprime pas trop ses émotions avec trop d'enthousiasme, etc. La joie, donc, comme la douleur. Est-ce que, Mariama, aussi, pour l'accouchement, chez vous, vous êtes maman de deux enfants, il faut absolument rester sur sa réserve, y compris au moment de l'expulsion du bébé et des contractions?
Ah, il ne faut surtout pas montrer, il ne faut surtout pas crier.
Ah ouais, d'accord.
Et parce que la maman qui vous accompagne, c'est une honte pour elle que sa fille crie ou bien que sa nièce crie lors de l'accouchement.
Ah oui.
Oui.
Donc il faut se maîtriser absolument et vous vous entraînez à ça, vous vous préparez à cela, donc à...
Bon, est-ce qu'il y a une préparation? On est face au...
On fait comme on peut.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas Mariama de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Alors il faut qu'on parle effectivement des bébés en Europe du Nord, parce que alors ça c'est vraiment quand même quand on est en France...
je dirais que c'est vraiment un autre monde, hein, finalement beaucoup plus étonnant pour nous que les bébés en Afrique, peut-être aussi parce qu'on les côtoie moins. Il y a un témoignage d'Emilia en Finlande, qui est originaire d'Helsinki. Elle dit, entre novembre et février, c'est la nuit polaire, on ne voit les premiers rayons de soleil qu'en mars, et seulement quelques heures dans la journée, et malgré ça, on passe énormément de temps à l'extérieur avec les petits. Notre température limite, c'est moins 25 degrés pour sortir les plus grands. Et elle est très étonnée parce qu'en France, quand il fait froid, il n'est pas question de sortir son bébé.
Complètement. Alors, ouais. Je pense que dans le pays scandinave, on peut voir plein de poussettes alignées devant les cafés parce que les parents, ils vont faire dormir leurs enfants, faire leur sieste dehors. Alors, bien émitouflés. Voilà.
C'est-à-dire que la maman est à l'intérieur pour se réchauffer, mais le bébé est dehors dans la poussette.
Ah, oui. Complètement.
Ah oui.
Oui, mais ça, c'est quelque chose que moi, je connais de la Pologne. Ça veut dire qu'on croit que le froid fait du bien. Le croix fait du bien au corps parce que ça renforce, ça donne la force. Et je pense que dans le pays scandinave, c'est pareil.
Un message de Florent à Paris, donc un papa. Ben oui, ma femme et moi, ne laissons pas nos enfants pleurer. Pourquoi faire cela? Les enfants auront d'autres occasions dans la vie. Pouvez-vous m'expliquer? Là, il y a autant de versions et de points de vue hein, sur les enfants qui pleurent. Effectivement, les enfants ont d'autres occasions dans la vie de pleurer. Mariama Diallo, vous avez laissé pleurer vos enfants
Non.
Il y a pleurer aussi. Oui, un enfant qui pleure parce qu'il a faim, oui, on ne va pas le laisser hurler dans son berceau. Et un enfant dont on ne sait pas pourquoi il pleure, est-ce qu'on le prend tout de suite dans les bras, par exemple, dans votre culture, Mariama Diallo?
Alors, on prend et je crois qu'on peut dire aussi à l'enfant, on peut dire à l'enfant, écoute, je comprends pas ce que tu veux me dire, donc j'aimerais bien t'aider, mais je trouve pas les moyens. Voilà, moi là où je rejoins peut-être ce papa, c'est quand on nous dit faut les laisser pleurer, ça leur fera les poumons, ou vous voyez ce genre de remarques, ou bien c'est un caprice à 3 mois, oui, comme s'ils étaient capables sur le plan psychologique. D'avoir ce type de stratégie, voilà, ça je trouve que c'est un peu compliqué. Mais ils peuvent pleurer aussi sans qu'on comprenne, et je pense que ce qui est important, c'est d'acter qu'on est là, qu'on ne comprend pas toujours, qu'on peut se tromper, et puis qu'ils le font avec notre présence, quoi.
Alors, depuis le début de l'émission, on dit beaucoup que c'est une affaire de femmes, hein, mais évidemment, les papas sont là, beaucoup présents, d'ailleurs très présents en Europe du Nord. En France, on vient de doubler le congé paternité. Je voudrais juste terminer, avant qu'on se quitte, sur l'histoire de la Finlande, parce que le gouvernement offre aux femmes qui accouchent, enfin aux familles, la box finlandaise, que chaque famille reçoit gratuitement à la naissance du bébé. C'est une grande boîte en carton, qui d'ailleurs sert souvent de premier lit. Et dedans, il y a plein de produits de grande qualité. Il y a une combinaison de ski, forcément, hein, si les bébés font la sieste dehors, des biberons, des couches, un thermomètre pour le bain, des brosses à dents, des chaussures, des gants, des bonnets, un tapis de jeu. Et c'est drôle parce qu'au parc, on peut facilement deviner l'âge d'un enfant par les vêtements qu'il porte. Par exemple, tous les enfants qui sont nés en 2014 vont porter la même combinaison rouge bariolée.
Les garçons et les filles.
C'est ça, exactement. Et chaque année, le design de la box est différent, identique. Voilà, ça s'appelle une mode gouvernementale. C'est super. Merci en tout cas à toutes les deux, Mariama Diallo, psychologue franco-guinéenne. Merci d'être venue dans le studio de 7 milliards de voisins. Et merci à vous, Anna Pamoula.
Merci beaucoup.
Maman du monde. C'est paru chez First. On apprend une foule de choses et beaucoup de témoignages. Dans quelques instants, on va parler des enfants sans identité. Mariama Diallo, vous connaissez le problème des enfants fantômes en Afrique subsaharienne. Plus de 93 millions d'enfants ne sont pas déclarés à l'état civil sur le continent africain. Des parlementaires français font des propositions concrètes pour aider les pays concernés en Afrique et en Asie du Sud. Ça sera juste après Oma. Oma. Ramanda be nyawakatana katae Oma nyise funi tam lafsi Ramanda be nyawakatana katae Mimi dia tobo zizi ampile tiketi ya lenyere Mimi dia tobo Mampu sila bara mpusi.
Espanita. Kugawe, tantan tan la lere, sana yule, atuwa duro. Kugawe, tantan tan la lere, sana yule, atuwa mungo. Rogo mnye se paye le sebiye, rilam tuubi. Ya nana tikele kende yusir pusi.
C'est Greg Bourkimbila, on est en direct sur RFI, vous écoutez 7 milliards de voisins. Nous sommes en ligne maintenant avec Laurence Dumont, députée du Calvados. Bonjour Laurence Dumont.
Oui, bonjour.
Vous venez de publier un rapport parlementaire, Les enfants sans identité, des solutions concrètes pour un enjeu majeur du développement. Selon l'UNICEF, 166 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ne sont pas enregistrés à l'état civil. C'est un problème que connaît bien l'Afrique subsaharienne, mais également l'Asie du Sud. Est-ce que malgré tout, la situation s'améliore aujourd'hui, Laurence Dumont ?
Oui, c'est vrai, la situation s'améliore malgré tout, mais vous citez l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, vous avez raison, parce que c'est là que sont l'essentiel des enfants qui ne sont pas enregistrés, mais il y en a aussi sur le territoire français. Et donc c'est pour ça qu'on a pointé cette question-là aussi dans le rapport que j'ai produit à la Commission des Affaires étrangères avec Aïna Curic, une de mes collègues. Et en France, ça se trouve essentiellement soit dans la communauté rom, soit dans deux départements ultramarins que sont la Guyane et Mayotte. Mmh. Donc l'idée de départ, c'était quand même de dire, si on veut voilà, pouvoir faire un peu, pas la morale, mais donner des conseils au monde entier, il faut qu'on soit aussi exemplaire. Donc c'est pour ça qu'on a pointé ça.
Pour quelle raison, sur le territoire français, c'est gratuit de déclarer son enfant à l'état civil ?
Oui, c'est gratuit, mais il reste des difficultés, soit de coutume, on va dire. Par exemple, en Guyane, on a découvert que chez les Amérindiens, où la mortalité infantile est encore assez importante, relativement importante, on ne souhaite pas enterrer un enfant mort qui a déjà reçu un prénom, et donc on retarde, par exemple, le moment de lui donner un nom. Donc c'est un exemple. À Mayotte, c'est un autre problème. On sait bien que c'est la proximité des Comores avec une immigration importante et donc la gestion de ces flux qui n'est pas encore totalement au point. Comme n'est pas totalement au point, l'état civil à Mayotte qui a été remis au point après la départementalisation qui remonte à une dizaine d'années maintenant. Mais c'est vrai que globalement, vous disiez 166 millions, Ça s'améliore, oui et non, c'est-à-dire que l'UNICEF estime aussi que, compte tenu de la croissance démographique qu'on connaît par exemple en Afrique, si on ne va pas plus vite, d'ici 2030, il y aura 100 millions d'enfants de plus qui ne seront pas enregistrés à l'état civil.
Une course contre la démographie. En Afrique, plus de la moitié des bébés ne sont pas déclarés à l'état civil à la naissance. L'Afrique subsaharienne, évidemment, donc particulièrement concernée, parce que l'enregistrement à la naissance est payant, mais c'est pas seulement, parce que c'est quand même des sommes très modiques, c'est pas seulement une question d'argent.
Non, certains pays, effectivement, c'est payant, donc ça peut être un frein supplémentaire. Mais le principal problème, c'est peut-être que certains parents n'estiment pas l'ampleur de l'enjeu. Moi, on m'a dit, c'est un papier blanc des blancs, l'acte de naissance. Et donc, par définition, l'enfant sait très bien, lui, comment il s'appelle, qui sont ses parents, dans un environnement immédiat. Mais ça se complique dès qu'on veut aller à l'école, dès qu'on veut être soigné, dès qu'on veut voyager, dès qu'on veut voter, dès qu'on veut, etc., etc. Donc il y a des enjeux d'information, de plaidoyer, comme on dit souvent les ONG, qui restent absolument majeurs. Et puis il y a la difficulté objective, parfois, de l'éloignement du centre d'état civil, où il faut prendre une journée sans travailler pour y aller. Donc il y a des difficultés objectives aussi.
Et des fonctionnaires aussi parfois qui n'hésitent pas à demander une rallonge.
Il peut y avoir ça, il peut y avoir des fonctionnaires ou des officiers d'état civil qui ne sont pas payés non plus. Voilà, une multitude de difficultés qui font qu'aujourd'hui, vous avez raison, un sur deux n'est pas enregistré, ce qui est absolument monstrueux.
C'est énorme. Les conséquences pour ces enfants, nos auditeurs en Afrique subsaharienne les connaissent bien. Les difficultés de scolarisation, surtout quand on arrive au niveau du secondaire pour passer l'examen d'entrée en sixième, par exemple, le travail forcé, mariage forcé, enrôlement dans les conflits. Quelles sont les préconisations du rapport parlementaire pour arriver vraiment à mettre ensemble tous les acteurs pour arriver à des avancées importantes?
Alors, les préconisations qu'on a essayé de limiter, hein, pour être entendues, on en a fait 23, donc certaines concernent essentiellement la France, je vous disais, pour ce qui concerne la Guyane ou Mayotte. Et puis, on s'est rendu compte, puisqu'on a fait une dizaine d'auditions à New York, aux Nations Unies aussi, que ça y est, il y a une réelle prise de conscience. Enfin, Antonio Guterres a mis en place, par exemple, une task force, un groupe de travail qui rassemble une quinzaine d'agences onusiennes. On sent que la coordination, qui est très manquante aujourd'hui, ça y est, elle s'organise. Et donc, par exemple, dans ce groupe de travail, il faut absolument que la France, même financièrement, donne un petit, fasse un geste. Les Suisses ont mis 7 millions, la France ne peut quand même pas être en reste. Donc il y a des questions un peu budgétaires comme ça. Il y a des questions ensuite de mobilisation du réseau diplomatique. On a un réseau diplomatique qui est quand même absolument majeur. Et si dans chaque État, on fait de ce sujet-là une priorité, alors la question du plaidoyer, la question du suivi, la question par exemple de ce qu'on appelle l'examen périodique universel, vous savez, qui est fait par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur chaque pays tous les 5 ans, peut permettre, voilà, d'avancer et de régler ce problème qui est absolument majeur. Je vous le dis, moi je n'ai pas rencontré depuis le temps que je suis élue, et ça fait très longtemps, j'ai jamais rencontré une problématique aussi lourde de conséquences et finalement aussi simple à régler.
Aussi simple à régler, est-ce vraiment si simple? Alors certes, il y a des pays, il y a des collectivités locales en Afrique qui organisent régulièrement des audiences foraines, donc c'est-à-dire pour régulariser la situation de l'enfant et lui donner des papiers, que ce soit des audiences foraines déclaratives ou des jugements supplétifs ou déclaratifs, me semble-t-il.
C'est ça. D'ailleurs, il faut noter que le notariat francophone est très impliqué dans ces démarches-là. Mais là, vous parlez de la façon avec laquelle certains États, et tant mieux, essayent de régler le problème après. Ce sur quoi on insiste beaucoup dans le rapport, c'est sur le fait que c'est l'enregistrement à la naissance qu'il faut absolument privilégier, histoire de ne louper, entre guillemets, personne. Alors que justement, jusqu'à présent, par exemple, la Banque mondiale avait un peu tendance à privilégier beaucoup, ou plutôt des solutions d'enrôlement, ce qui a été fait en Inde, où plus d'un milliard de personnes ont été comme ça, comme photographiées à un instant T. Oui. Mais ça ne règle pas grand-chose, puisque les Indiens ont bien enregistré 1 milliard de personnes, mais ils ont mal enregistré les décès, les mariages, et donc ça reste...
Donc il faut faire de la prévention, et il faut que ça redescende évidemment sur le terrain auprès des chefs communautaires et des élus locaux. Merci beaucoup Laurence Dumont, députée du Calvados. Le rapport sur les enfants sans identité est disponible sur notre page 7 milliards de voisins, sur le site rfi.fr. Très bonne journée à vous, Madame Dumont.
Merci.
Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les prix de l'Internet en Afrique. Quelles avancées! Et puis j'en profite, il me reste un peu de temps pour vous signaler, surtout n'oubliez pas de rendre vos enfants heureux en leur permettant d'écouter nos histoires, les contes de chez 7 milliards de voisins. 55 histoires mises en onde, des histoires absolument formidables pour travailler le langage, l'imagination. C'est sur RFI et c'est à télécharger en podcast sur les plateformes de téléchargement. 7 milliards de voisins, des contes à écouter.
De voisins, c'est fini.